Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solare IT, Procivis, Inly, Axéo et ID Pro sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien les amis, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct pour cette seconde journée du CIMI. Il est exactement 10h15, passé d'une minute, on est ravis d'être avec vous. Je n'ai pu malheureusement passer la journée hier avec vous, j'ai fait un aller-retour à Lyon. Nous sommes le 10 décembre et c'est l'édition 2025 du CIMI. Le CIMI, les amis, c'est the place to be, c'est là où il faut être. Ça couronne en quelques guillemets, ou ça sanctionne également l'année 2025. En faisant le point sur les marchés immobiliers. Je dis bien les marchés immobiliers, parce qu'il y a beaucoup de marchés immobiliers, bien évidemment. C'est de cela dont on va parler également avec notre prochain invité. On a un gros programme aujourd'hui, surtout. N'hésitez pas, bien évidemment, à nous écrire pour liker et commenter, et on vous écrira. Vous avez aussi le programme qui s'affiche également sur le podcast. Voilà, un professionnel, grand monsieur de l'immobilier, qui est avec nous sur le plateau. On est ravis de l'accueillir. Il est directeur général advisory chez BNP Paribas Real Estate. Eric Siès, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va?
Très bien.
Je suis ravi de vous revoir.
Toujours très bien.
Voilà. C'est toujours un plaisir de se croiser. On a une grosse actualité, Eric. Mais la première question un peu générale, c'est que je vais vous demander comment se comporte aujourd'hui le marché des bureaux en Île-de-France.
Écoutez, c'est vrai qu'on analyse ce marché souvent avec la demande placée et il faut reconnaître qu'on a quand même un sérieux ralentissement de la demande placée cette année, puisqu'aujourd'hui on est à moins 11% pour être précis. À fin novembre, si on se compare à l'année dernière à pareille époque. Donc on devrait, je pense, atteindre 1 650 000 m² environ. On a toutefois des deals qui pourraient passer sur 2026. Donc tout ça reste à confirmer. Après, on a eu un marché un peu particulier cette année, parce qu'il est vraiment à deux vitesses. On a d'un côté des grandes surfaces qui souffrent bien plus. Quand je dis grandes surfaces, je parle de deals supérieurs à 5 000 m². On est à moins 18%. En revanche, c'est bien plus résilient dès qu'il s'agit du marché du 0,5 000 m², qui est en recul plus limité de 7%.
Est-ce que ça veut dire que les petites surfaces, on le vend en coup? Est-ce que ça veut dire, Eric, en fait, je vais m'expliquer. Est-ce que ça veut dire que les surfaces dites intermédiaires ou petites vont devenir un peu la donne dans le choix un peu plus frugal des preneurs?
Alors, je ne pense pas que ça puisse s'exprimer comme ça. Je pense surtout que, bien entendu, s'il y a un ralentissement de cette demande placée, c'est parce qu'on a un environnement économique, géopolitique, qui n'est quand même pas très stable en ce moment. Et très clairement, ça affecte plus aujourd'hui les grands groupes, alors qu'on a une meilleure dynamique côté petite et moyenne surface. Alors après, pour vous donner raison, c'est vrai que si on regarde un marché comme celui de la défense, c'est un marché qui a su se renouveler et qui aujourd'hui est devenu très très attractif justement pour les petites et surtout les moyennes surfaces, ce qui était moins le cas auparavant.
Est-ce que le climat économique également, la frugalité des moyens, la baisse des marges, les coûts des matières premières, le fait que les groupes aujourd'hui sont beaucoup plus vigilants, entre guillemets, sur la défense, est-ce que ça impacte également?
Oui, en quelque sorte, puisque on a d'un côté, premier constat, c'est un allongement très clair des délais de décision de nos clients utilisateurs. On a aussi bien plus de stratégies, comme on dit dans notre jargon, go, no go, c'est-à-dire qu'on va explorer les deux pistes. Soit je reste dans mes locaux actuels, je renégocie certains aspects avec mon bailleur, ou bien je déménage et j'intègre de nouveaux locaux. Donc là, c'est quand même assez généralisé, notamment justement en ce qui concerne les grandes surfaces, où on doit être à peu près à 40 à 50% des grands utilisateurs de plus de 5000 m² qui optent pour cette logique de go-no-go. Et puis, dernier point peut-être que l'on peut souligner, c'est l'accélération des sorties de Paris. C'est vrai que compte tenu du climat économique, on a aujourd'hui de plus en plus d'utilisateurs qui vont rechercher des surfaces en dehors de Paris. C'est aujourd'hui 16% des transactions périphériques sur le cœur de marché, qui est le 1500 m² qui proviennent d'utilisateurs qui sortent de Paris. Donc c'est relativement un peu plus du double par rapport à l'an dernier.
J'avais pensé un peu le contraire, mais effectivement, les chiffres sont là. Quels sont les acteurs, Eric, qui s'en sortent le mieux?
Les acteurs qui s'en sortent le mieux, alors ça dépend des secteurs, bien entendu. Si on regarde notamment Paris QCA, en termes de secteur d'activité, on va dire que le conseil et la finance font à peu près 50% du marché, du cœur de marché, 1500 m², alors qu'on a quand même un secteur du luxe qui auparavant était extrêmement dynamique, qui là l'est quand même moins. D'ailleurs, on le lit tous les jours dans la presse. Idem pour, d'une manière générale, les sociétés de la net economy, même si on a eu quelques très gros deals qui ont été opérés, notamment Datadog sur le 21 Madeleine, qui vont finalement à l'inverse de ce que je suis en train de dire, mais globalement, on a quand même une net economy qui est quand même nettement moins présente qu'auparavant. Idem pour le coworking, et c'est quand même toutes ces activités-là qui nourrissaient à l'époque la demande placée, en tout cas parisienne, et notamment sur Paris QCA.
Alors, on le voit, qu'il y a un impact direct entre le climat général économique et l'activité des entreprises. Là, vous venez de me répondre finalement que les activités de conseil et de finance sont celles qui marquent le plus dans les prises. Il y a beaucoup de chantiers, de bureaux actuellement à Paris.
Oui,
alors est-ce parce qu'on a l'impression, hein, que ça se transforme, ou est-ce que c'est une vue de l'esprit
Alors c'est...
Savez, on se dit que quand on voit des tourelles ou des grues, on se dit que ça sent bon, voilà, dans Paris. Est-ce que ça sent bon dans Paris?
Exactement. Voilà. Moi, je pense qu'en effet, on a beaucoup d'investisseurs qui ont lancé des programmes de restructuration de leurs actifs dans Paris, parce qu'aujourd'hui, on est sur un marché avec vraiment de véritables attentes des utilisateurs. Et l'objectif, c'est bien entendu d'avoir des biens qui correspondent aux attentes de ces utilisateurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de chantiers dans Paris. Si on considère le poids que représente Paris par rapport à l'ensemble des chantiers franciliens, et ça c'est tout à fait historique, on a 70% des chantiers en Ile-de-France qui sont aujourd'hui dans Paris. Alors pourquoi? C'est peut-être la seconde question, je la pose presque à votre place. Eh bien, c'est aussi parce qu'on a eu un arrêt des chantiers un quasi-arrêt des chantiers en périphérie. Pourquoi aussi cet arrêt des chantiers? C'est parce qu'aujourd'hui on a quand même un stock qui est relativement conséquent en bureaux. Pas forcément en offre structurée, mais en tout cas en bureau au sens large, en périphérie. Et donc, les financements ont été plus compliqués. Et on a eu donc un arrêt de ces chantiers en périphérie depuis déjà quelques temps.
Y a-t-il trop de bureaux? C'est un peu général ce que je dis, mais y a-t-il pas aujourd'hui une suroffre structurellement qui fait que de toute façon, à un moment donné, Eric, il faudra se pencher sur la mixité de l'usage? C'est déjà le cas. Hein,
c'est déjà le cas.
En grande partie. Mais c'est plus qu'un effet de mode. On voit bien qu'il y a un phénomène durable.
Alors, il y aura différents aspects dans cette question, c'est-à-dire que bien entendu, il faut que on a des secteurs sur lesquels le bureau n'a plus, il n'y a plus de logique, objectivement, il n'y a plus d'attractivité, etc. Et là, on a d'ores et déjà beaucoup d'acteurs du marché qui se penchent sur la logique de reconversion de ces actifs. Néanmoins, c'est relativement long à mettre en place. Il faut avoir aussi un bon momentum, il faut avoir une équation qui fonctionne entre le loyer, entre la capacité à transformer le bâtiment en fonction, en effet, de si on a un bâtiment avec des très grandes profondeurs, ce sera plus difficile qu'un bâtiment avec de plus faibles profondeurs, par exemple. Il faut aussi qu'on ait des pouvoirs publics qui soient faiseurs, c'est-à-dire qu'il faut réunir ces trois aspects ou cette équation pour pouvoir se faire. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps, même si ça monte en puissance au fur et à mesure, parce que tout le monde prend conscience qu'il y a certains secteurs qui aujourd'hui ne sont plus trop éligibles au bureau. Donc de ce côté-là...
On parle de 4 millions de mètres carrés hein, quand même, en Ile-de-France, c'est pas neutre. Hein.
C'est ça, donc on aura une partie de ces bureaux qui vont être convertis. Après, on a d'autres secteurs où, là pour le coup, les bureaux sont toujours les bienvenus, mais encore faut-il avoir des bureaux, comme je le disais tout à l'heure pour le QCA, mais ça vaut pour l'ensemble des secteurs, qui vont être à la hauteur des attentes des utilisateurs.
C'est très clair.
Et là, ça nécessite des programmes de travaux parfois en profondeur pour les remettre à niveau.
Le quartier central des affaires, hein, qu'on appelle le QCA, Eric,
oui.
Toujours bankable, toujours autant?
Alors, toujours autant, oui. Maintenant, c'est un marché qui est assez particulier parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase de marché où on a un marché qui est extrêmement élitiste, notamment sur le fameux créneau du 1000-5000 m². On s'aperçoit qu'on a quand même 39% des deals qui s'opèrent, je suis très précis, hein, je ne dis pas 40%, c'est 39% des deals de plus de qui s'opèrent au-delà de 1000 euros du mètre carré. Donc on a un marché en effet, comme on dit souvent, flight to quality, ça c'est vraiment une réalité, avec un loyer prime qui est à 1250 euros du mètre, qui a commencé par une opération en effet qui est marché Saint-Honoré par JP Morgan, et puis après s'en sont suivies encore deux autres opérations à ce niveau de loyer, et y compris en moyenne surface. Donc on voit bien qu'on a un loyer prime qui est très ancré à partir du moment où on a un actif qui est considéré par hors norme par les utilisateurs.
Oui, exceptionnel.
Là, c'est assez exceptionnel. Oui. Maintenant, c'est un marché qui est aussi très compartimenté parce que là, on parle vraiment d'une partie des deals. Après, plus globalement, on a un marché, quand je dis compartimenté, il s'intéresse tout particulièrement aujourd'hui au Grand Plateau. Il y a quand même une grosse prime au Grand Plateau versus mais c'est à chaque fois quand on a des ralentissements de marché la même chose, eh bien on a tendance à privilégier des grands plateaux très efficaces, pourquoi pas des immeubles justement type centre d'affaires très très serviciels, au détriment d'immeubles plus verticaux, indépendants. Et là, c'est extrêmement clair aussi. Ça représente pas loin de 80% des deals. Ensuite, quand je dis compartimenté, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un public qui s'est réduit quand même considérablement, qui est quand même très largement en faveur de la finance ou encore du conseil.
Est-ce que cette tendance, bon, bien malin celui qui fera une prophétie, mais se confirme, les activités de service, les activités de finance ont vraiment grignoté et que l'année 2026 devrait se confirmer sur cette même tendance-là?
Alors, on pourra avoir bien entendu cette tendance. Moi, je mise quand même sur un retour de la NetEco qui devrait intervenir aussi au fur et à mesure, avec une capacité de se financer aussi plus aisée, etc., en tout cas dans les mois ou les années à venir. Donc, je pense qu'on va avoir un secteur, on commence à avoir aussi un secteur du luxe qui, notamment en Chine, semble repartir. Je ne suis pas un spécialiste du luxe, mais donc ça voudra dire que derrière, il y aura peut-être aussi une consommation de mètres carrés bureau à la clé pour Paris, pour ces grands acteurs qui ont quand même été des acteurs très présents au cours des dernières années. Donc je pense j'espère en tout cas qu'on aura un meilleur équilibrage des activités et qui correspondra à tout type d'offres et pas uniquement sur des offres de très très grande qualité jugées comme prime ou ultra prime. Voilà.
Dernière question, on en a beaucoup parlé, donc ça fait des années qu'on en parle bien évidemment, mais on a la question de la défense qui est quand même un vrai sujet. Alors la défense qui se défend bien d'ailleurs, sans perdre jeu de mots, puisque là j'ai travaillé sur le dossier effectivement de renouvellement urbain du parvis de la Défense avec un verdissement sans précédent de l'eau, du verre, de l'espace et de l'air. Si je devais résumer, une mixité d'usage qui s'ancre peu à peu de façon extrêmement flagrante, food, hospitality, c'est-à-dire hôtellerie protéiforme, bureau bien évidemment. Question à vous, le professionnel, la défense bashing est-elle toujours justifiée? Ou est-ce que, pour l'instant, est-ce qu'on peut tordre le cou finalement à cette espèce de rumeur malsaine qui court? Alors bien évidemment, je ne vais pas reprendre les chiffres, on les connaît sur la vacance locative. On sait qu'il y a certains immeubles dont le destin est d'ores et déjà condamné. On a aussi des immeubles qui ils sont en train de voir une nouvelle vie. Je le vois avec les immeubles pris en main notamment par WO2, ce fabuleux projet absolument incroyable avec Sanofi, un campus extraordinaire. Voilà, question Eric Siès, donc la défense est en train de muer, d'aborder sa mue de manière intelligente, de manière résiliente?
Moi, j'avoue que j'ai toujours été vraiment à l'opposé du défense bashing. J'ai toujours pris la défense, comme vous le dites,
de la défense.
en effet, très clairement. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est probablement en Île-de-France le secteur qui a mieux su se réinventer et s'adapter à une nouvelle donne de la part des utilisateurs. De quelle manière ? Vous l'avez déjà exprimé, par rapport à l'environnement, le verdissement, la mobilité douce, les transports qui sont encore améliorés. C'est tout d'abord le premier secteur qui est perçu par les utilisateurs comme un secteur central en dehors de Paris, parce qu'on a beaucoup parlé de centralité ces dernières années, et la défense est à l'image très clairement de cela. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui justifie d'ailleurs que quand on a des sociétés dont je parlais tout à l'heure qui quittent Paris pour rechercher des surfaces de qualité avec un bon rapport qualité-prix, eh bien, vous en avez une sur deux qui font le choix de la défense aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, c'est avant tout des moyennes surfaces plus que des grandes surfaces de plus de 5000 m2. Mais tout de même, c'est une tendance qui est quand même très clairement exprimée de la part des utilisateurs. Pourquoi aussi ? Parce que finalement, ils adressent des immeubles, des tours qui ont très souvent été d'excellents laboratoires en matière servicielle. Si vous faites quelques tours à la Défense, vous verrez qu'ils ont énormément évolué par rapport à l'offre de services dans les tours. Ça, c'est un point très important. On a des tours de très grande qualité et on arrive aujourd'hui avec un accompagnement et des incentives qui sont assez importants à avoir un rapport qualité-prix qui a relativement peu d'équivalent. Il faut le reconnaître, si on rajoute à ça, bien entendu, l'accessibilité. Après, ce qui est aussi intéressant dans le secteur de la Défense, c'est que pendant des années, moi quand j'ai débuté, on me disait la défense c'est uniquement les grands utilisateurs. Eh bien écoutez, aujourd'hui c'est plus du tout le cas. La défense finalement elle apparaît extrêmement attractive pour beaucoup de moyennes
surfaces. C'est hyper important ce que vous dites, pardonnez-moi, je vous coupe, mais
non, pas du tout.
C'est très important ce que vous dites et j'aimerais, si c'est possible, qu'on adresse même un message aux entrepreneurs.
Bien sûr.
Des TPE, des petites PME qui n'auraient pas pensé naturellement, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient exclus de ce type de marché, qui peuvent aller à la défense. Vous êtes d'accord ?
On
peut aujourd'hui dire à ces entreprises, toutes ces petits entrepreneurs, que ce soit de la tech ou même des entrepreneurs, par exemple des services, je pense par exemple de tes consommables, de la comptabilité, de plus en plus. Il y avait des demandes, on a même eu des entrepreneurs qui demandaient est-ce qu'on peut louer 100 m2, 200 m2, 500 m2 à la défense. On aimerait être à la défense.
Je vous confirme que nos équipes, elles suivent tout type de demandes et bienvenue, hein, n'hésitez pas à nous contacter par rapport à cela. Mais à partir de 100 m2, on trouve des surfaces servicielles à la défense.
D'accord.
Vous prenez une tour comme la tour G, c'est typiquement comme ça que cette tour
s'est réinventée. Moi, TPE, PME, je peux vraiment dire, je peux avoir de manière importante, car des adresses, vous savez que l'adresse est importante puisqu'elle permet d'ancrer l'image de l'entreprise. Moi, petite TPE, PME, je peux être dans une très jolie tour à la défense.
Ah mais alors, définitivement oui. Et d'ailleurs, la preuve en est, on a eu beaucoup de sociétés qui ont quitté Péridéfense pour retrouver plus de centralité à la défense avec des loyers qui devenaient possibles pour elles. Ensuite, là, je viens de parler de Paris avec des sorties qui sont aujourd'hui en plus grand nombre. Et on a même la défense en train de reprendre une alternative à du Boulogne ou ici les Moulineaux.
Donc, on peut donner quelques chiffres au mètre carré abordables, parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître que quand on voit le prix au mètre carré à la défense, en moyenne, il a quand même, par rapport à une certaine époque, en constance, plutôt bien baissé.
Oui.
Est devenu très abordable. Est-ce que vous pouvez nous donner des moyens?
C'est-à-dire que... Voilà, alors vous parliez tout à l'heure de la transaction de Sanofi, c'est vrai qu'on là on est vraiment sur du prime, où on a signé aussi sur Trinity différents clients, et là on était sur des loyers de l'ordre de 600 euros, voire 610 euros pour Sanofi. Là je parle en valeur signature et non
bien
pas
sûr.
Livraison.
Bien sûr.
Donc là on est quand même sur une défense avec un prime de cet ordre-là. Néanmoins, on trouve des surfaces très intéressantes et vraiment jugées prime à partir de 530-550 euros du mètre. Et sur des actifs qui sont neufs structurés, quand on est sur des étages bas, eh bien, on peut commencer à trouver aussi des offres de grande qualité à 300 euros du mètre.
C'est génial.
Moi, je trouve ça génial. Est vraiment sur un éventail de valeurs et d'actifs. Ça, c'est très intéressant de le souligner. Et aussi... sur la défense, on a deux points. Sur le 1 500 m2, il faut savoir que c'est un marché qui a encore progressé de 20% cette année. C'est énorme. Alors que l'an dernier, c'était déjà une année qui était très très dynamique. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une tendance qui semble être durable. On a aussi un autre point qui est intéressant sur la défense, parce qu'on a aussi des clients qui sont en recherche de mouvement, mais pas non plus à n'importe quel prix, et qui font attention à leur trésorerie, hein, faut se dire les choses. Et on a aussi un marché du plug and play qui s'est beaucoup développé ces derniers temps sur la défense, puisqu'on a à peu près 20% des deals qui s'opèrent sur des opérations plug and play. Donc, c'est-à-dire qu'il y a le loyer.
On va expliquer, pardonnez-moi Eric, ce que c'est que le plug and play à ceux qui nous écoutent.
Vous avez raison. Non, le plug and play, on parle de locaux qui sont équipés, c'est-à-dire avec des preneurs qui ont libéré des locaux en très bon état. C'est-à-dire qu'on a vraiment juste, on a un câblage qui a déjà effectué, des cloisons qui sont posées.
Il y a juste à installer les chaises et les bureaux. Quoi.
Et voilà, et ça permet finalement pour les sociétés de dire, eh bien, écoutez, moi je vais louer, je loue donc à un prix X, j'ai des accompagnements qui sont généralement accordés par l'investisseur qu'on appelle des incentives pour encourager le deal, mais surtout je fais une économie immédiate en termes d'investissement sur les travaux preneurs. Donc ça permet parfois aussi de justifier ou de valider un mouvement pour un chef d'entreprise.
C'est un excellent message à faire passer. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau, Eric.
Merci.
Pour revenir
merci.
Plus souvent, on va demander à notre ami Amira Tahirovic de nous faire venir Eric plus souvent sur le plateau. Bon, aussi, parce que ce qui est bien avec vous, c'est que c'est jamais à peu près. C'est un chiffre extrêmement précis. Quand on dit 39%, c'est pas 40%. J'aime beaucoup l'idée. En tout cas, un immense merci à vous d'être venu et nous avoir fait l'honneur d'être sur le plateau de Radio Immo. Eric Siège, je rappelle que vous êtes directeur général advisory pour BNP Paribas Real Estate. Un petit clin d'œil à Thierry Laroupon, votre président, qu'on espère avoir peut-être sur le plateau, mais il viendra. Franchement, on l'apprécie beaucoup. À suivre, nous allons rencontrer tout à l'heure quelqu'un que vous connaissez bien, les amis. Il est le président de Sogénial, une SCPI. Un véhicule d'investissement, c'est Jean-Marie Souclier qui mettra avec nous dans quelques instants. Et on continue, bien sûr, toute la journée. Si vous loupez l'émission, rappelez-vous, allez récupérer sur la plateforme. A tout de suite.
Le CIMI, du 9 au 11 décembre 2025, à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Salvia Développement, Solaré IT, Procivis, Inly, Axéo et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.